pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour cette nouvelle année, vous vous posez des questions cruciales.
Eh oui, pendant les vacances, j'ai eu l'occasion de me poser de vraies questions. Vous savez, celles qui reviennent sans cesse et auxquelles je parie que 2020 n'échappera pas. Comme par exemple, peut-on rire de tout ? Ou faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Ou encore est-il interdit d'interdire ? Et j'en ai d'autres. À la fois cruciales et épuisantes, ces questions en amènent une autre. Pourquoi encore et toujours ces éternelles questions ?
Bruno Solo, c'est une vraie question éthique et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on dissocie l'artiste de la personne ? Est-ce que Roman Polanski
oui,
fait des
on
films ?
Dissocie. Est-ce qu'on va voir ses films ? Il faut dissocier, parce qu'autrement, il y a les exemples qu'on nous rebâche sans arrêt, Céline. On pourrait dire Claude Autant-Lara, qui a eu des propos à la fin de sa vie absolument épouvantables, et c'est pour l'homme qui a fait La traversée de Paris, qui était un film qui dénonçait pourtant voilà, la collaboration. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, enfin, elle se fait de fait... Il y a une distinction entre l'homme et l'artiste.
Polanski, Gauguin, Céline, Woody Allen, les exemples ne manquent pas pour sortir de son chapeau l'éternelle question de la séparation entre l'homme et l'artiste. Soyons honnêtes, on n'en peut plus. Mais soyons honnêtes aussi, personne n'a la réponse. Si Bruno Solo, l'acteur qu'on vient d'entendre dans cet extrait, est capable de dire que de fait, cette séparation existe, je suis tout autant capable de lui répondre que de fait, une personne ne se coupe pas en deux, avec une moitié homme, une moitié artiste. Alors certes, je suis capable aussi de voir ce qu'a voulu dire Bruno Solo et j'ai expérimenté le fait simultané de trouver par exemple un film de Polanski génial et de me dire que c'était, ça pouvait être un mec dégoûtant. Bon, quand se pose cette question ou une autre, comme peut-on rire de tout, on est de toute façon pris au piège. Le contexte, l'interlocuteur, la critique, la concession, l'époque, on parle beaucoup de ça avec l'affaire Gabriel Mazneff, l'expérience, nos valeurs, tout ceci fait qu'on ne sera pas constant sur le sujet. À moins d'adopter une position de principe, je mets au défi quiconque de m'apporter une réponse absolue, valable de tout temps, implacable, vérifiable à ces questions, comme on pourrait me démontrer que 2 plus 2 font 4. Voilà le problème, ce genre de question n'est pas mathématique. D'où le fait qu'elle soit reposée, qu'un moindre événement la réactive, qu'on trouve à en redire. Mais voilà ma question, pourquoi certaines questions justement reviennent et pas d'autres ? Pourquoi revient « peut-on rire de tout » par exemple, et pas une belle question philosophique comme « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?»
Mais là encore, que choisir ? Alors bien sûr, la collaboration c'était le bon droit, la respectabilité, et puis des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air, Yukaidi, Yukaida. Oui, mais pour bien gagner sa vie dans la collaboration, fallait dénoncer les Juifs. C'est pas très joli. Oui, mais dans la résistance, on dénonçait pas les Juifs, mais fallait vivre avec.
Aurais-je été collabo ou résistante ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les goûts sont-ils dans la nature ? Est-il interdit d'interdire ? Ou encore, faut-il coucher le premier soir ? Y aurait-il des questions qui mériteraient par essence d'être posées ? Des questions type. Mais alors, comment fonctionne-t-elle ? À quoi ressemble ce qu'on pourrait appeler une éternelle question ? Eh bien, en examinant ces éternelles questions, je me suis rendu compte qu'elles avaient en commun... 1. De ne pas être mathématique, comme je l'ai dit, et 2. D'être tout autant générale que particulière. Elles vont de l'astronomie au choix intime. Pourtant, si on regarde bien, si ces questions sont étendues, elles ne sont pas pour autant ouvertes. Elles n'appellent qu'un oui ou qu'un non, ou alors un choix entre deux éléments du type la poule ou l'œuf. J'en déduis donc ce paradoxe, pour devenir éternelle, une question doit brasser large, mais réduire les possibles. Elle doit avoir l'apparence d'une question, mais pas la profondeur qu'elle appelle. Elle doit laisser penser qu'on dialogue quand on ne fait que juxtaposer des avis. Autrement dit, l'éternelle question nourrit et pourrit en un geste le débat.
C'est un sondage qui risque bien de clore le débat lancé jusque dans l'Assemblée nationale sur le mot « chocolatine ». Selon une étude IFOP pour la Fédération des entreprises de boulangerie, 84% des Français utilisent l'appellation « pain au chocolat » contre seulement 16% « chocolatine ». Le constat est donc sans appel.
Le problème avec ces questions éternelles, c'est que montrer comment fonctionne cette question ne résout pas le problème de sa fréquence. Je me suis donc redemandé sincèrement pourquoi reviennent-elles ? Est-ce que que c'est par manque d'originalité? Est-ce que parce que ça flatte nos égos de penseurs sans trop nous engager? Ou parce qu'elle serait, malgré nos ricanements, de vraies bonnes questions? C'est une hypothèse, car ces éternelles questions semblent les seules capables de faire parler les plus taiseux, autant pour dire des bêtises d'ailleurs que pour développer de bons arguments, voire les deux en même temps. Pour finir, j'ai donc moi aussi une éternelle question. En 2020, pourra-t-on créer de nouvelles éternelles questions?
Mais c'est un bon défi, je vous propose qu'on le relève au chemin. D'ailleurs, on pourrait faire une série d'émissions sur les questions éternelles ou les dilemmes moraux qu'on n'arrive pas à trancher.
Peut-on rire de tout? Faut-il séparer l'homme de l'art?
On va bien s'amuser et surtout pas en chocolat et chocolatine. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo, surtout sur le site du Journal de la Philo.